Nous voilà ensemble à nouveau. Nous avons parlé des 11 premiers versets de Romains 5, les fruits de la justification par la foi, la paix avec Dieu, l'espérance, la persévérance dans l'épreuve. Et nous sommes certains de toutes ces choses grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'amour inconditionnel de Dieu et grâce au fait que nous sommes déjà réconciliés avec lui. Nous allons maintenant sur la deuxième partie du chapitre 5, que j'ai donné comme titre Le mécanisme de la justification par la foi. On peut se poser la question, comment exactement est-ce que Dieu m'a justifié? Par quels moyens? Est-ce qu'il a agité une baguette magique? Alors nous savons que c'est par la croix de Christ, par le sang qui a coulé pour payer nos fautes. Mais il y a un aspect qu'il nous faut explorer, un aspect dont on ne parle peut-être pas assez et que nous allons voir ici, le mécanisme. Quand j'ai un frère, je vous parle de mon frère, il a un hobby, il aime bien les radios. Et donc, il a toute une collection de vieilles radios. À chaque radio, il les a entièrement démontées pour voir comment elles fonctionnent. Et puis, il les répare et puis, il les remonte. Moi, j'utilise une radio, j'appuie sur le bouton on-off, c'est tout ce que je sais faire. Mais mon frère connaît parfaitement les radios parce qu'il les démonte. J'aimerais vous montrer ce soir le mécanisme de la justification par la foi, quelque chose que Dieu a fait pour nous justifier. Quatre parties. Introduction au verset 12. Il va nous parler de notre solidarité avec le premier Adam, notre lien avec le premier Adam dans le jardin d'Éden. Deuxième partie, une parenthèse. Le lien entre le péché et la loi, versets 13 et 14. Troisième partie, des comparaisons et contrastes entre les deux Adam, c'est-à-dire premier Adam et second Adam, Christ. Et puis une conclusion pour souligner que nous devons entièrement notre salut au second Adam et à notre solidarité avec lui. Donc, si je peux résumer ce passage, je vais dire que nous sommes justifiés par Christ de la même manière que nous sommes devenus pécheurs en Adam. Nous sommes justifiés en Christ de la même manière que nous sommes devenus pécheurs en Adam. Ce sera ça le mécanisme dont je vous parlerai. Verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. La solidarité entre nous et Adam. Par solidarité, on peut entendre un lien de choses qui sont jointes, qui sont solidaires l'une de l'autre. Il nous faut comprendre ce principe de solidarité dans les Écritures. Il y en a plusieurs exemples et par ces histoires, je crois que nous allons mieux saisir notre solidarité avec Adam et par la suite notre solidarité avec Christ. Rappelons-nous un instant l'histoire de David et Goliath. Goliath, le géant philistin, défie l'armée des Israélites. Envoyez-moi un homme. Je me battrai avec lui. S'il gagne, nous les Philistins, on sera tous vos esclaves. Et si moi je gagne, vous les Israélites, vous serez tous nos esclaves. David va relever le défi. Alors quand David avance vers Goliath, on peut dire que tout le peuple d'Israël est dans le sac à dos de David. Le sort de tout le peuple repose sur les épaules de David. Le sort de tous les Philistins repose sur les épaules de Goliath. David était le héros qui s'est avancé contre Goliath et qui a vaincu. Alors, de la même manière, Jésus est notre héros. Quand il est allé à la croix, il avait dans son sac à dos tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui bénéficieraient du salut. Et nous pouvons tous dire, vive notre héros! C'est lui qui est allé au combat pour nous. C'est lui qui a tout fait pour nous. Donc, nous sommes vainqueurs grâce à notre solidarité avec Christ. Ça, c'est un exemple positif de solidarité. Il y a des exemples négatifs dans la Bible aussi. Je pense à cette histoire dans le livre de Josué. Le peuple vient de prendre la ville de Jéricho. Le peuple est tout content. Ils vont avancer maintenant à une deuxième ville, Haï. Nous sommes dans la conquête de la terre promise, dans Josué chapitre 7. Mais le peuple va vivre une terrible défaite à Haï, alors que c'est une toute petite ville. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on peut appeler un interdit sur le camp. Un des membres du camp d'Israël a pris dans Jéricho du butin qu'il ne devait pas prendre. Tout devait être dédié à l'Éternel. Lui, il a pris du butin, il l'a caché sous sa tente, il a menti. Eh bien, ce péché d'Acan est comme étalé sur le peuple d'Israël, de telle sorte que tout le peuple perd lors de la bataille suivante, parce qu'il y a ce péché qui a comme infecté le camp. On peut imaginer, par exemple, un verre d'eau comme j'ai ici. Mais si quelqu'un mettait juste quelques gouttes de poison dans ce verre d'eau, le poison s'étalerait à toute l'eau. De la même manière, nous sommes solidaires avec Adam dans son péché. Quand il a péché, nous avons péché. Il est devenu pécheur, nous sommes devenus pécheurs. Il y a d'autres exemples de cela dans la Bible. On pense par exemple à Néhémie dans le chapitre 2 de son livre, ou Daniel dans le chapitre 9 de son livre. Les deux prient pour confesser les péchés de leur peuple. Ils se rendent compte qu'ils sont en captivité à cause du péché du peuple et à cause même du péché de leurs ancêtres. Et ils prient à Dieu en s'identifiant avec ces péchés. Ils ressentent cette solidarité. Un dernier exemple, juste pour enfoncer le clou, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, l'auteur est en train d'établir la supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ, qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, par rapport à la prêtrise des Lévitiques. Pour dire cela, il affirme que les Lévites ont payé la dîme un jour à Melchisédek. Alors, si vous connaissez votre chronologie biblique, vous savez que Melchisédek est à l'époque d'Abraham, soit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Or, les Lévites ont été nommés seulement dans la loi de Moïse, environ 1500, 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a un écart de 500 ans entre cet événement où Abraham a payé la dîme à Melchisédek et l'apparition des Lévites. Comment l'auteur peut-il alors affirmer que les Lévites ont payé la dîme à Melchisédek? Ben, il dit tout simplement, ben, ils étaient là ce jour-là. Ils étaient dans la semence, dans les spermatozoïdes, si vous voulez, d'Abraham quand lui a payé la dîme. On voit cette solidarité à travers les générations. Donc, avec cela en tête, on va parler de la solidarité adamique, c'est-à-dire nous sommes tous des enfants d'Adam, nés dans la race adamique, et donc nous avons hérité de sa nature pécheresse. Cette nature pécheresse est un héritage biologique. Peut-être. La Bible ne l'affirme pas vraiment. Je pense que ce n'est pas nécessaire de dire que nous sommes pécheurs biologiquement à cause de notre lien avec Adam. Je dis cela parce que nous sommes justifiés par notre solidarité avec Christ. Il ne s'agit pas là d'une solidarité biologique, mais d'une solidarité spirituelle. Je pense que de la même manière, notre solidarité avec Adam est spirituelle. Dieu a considéré Adam comme notre représentant, en quelque sorte. Il est le premier homme, il est le père. Le père de famille a une grande responsabilité vis-à-vis de ses enfants. On peut imaginer un père de famille qui conduit sa voiture. Mais il conduit mal, il sort de la route et il rentre dans un arbre. Il y a un accident, il y a des blessés. Lui-même est blessé, mais sur le siège arrière, il y avait ses enfants. Ils sont aussi blessés parce que dans la même voiture, solidaires avec leur père. Donc on peut dire que Adam a fait une sortie de route. Il est notre père. Il s'est blessé. Et nous sommes nous-mêmes pécheurs parce que le péché a été introduit par Adam et la mort avec le péché. On peut prendre une deuxième illustration, celle d'un élu avec ses administrés. Je vous demande pardon, je prends une illustration par rapport à la France. Je suis en France. Supposons que nos représentants à l'Assemblée nationale, décide que pour renflouer les caisses de l'État, tout le monde doit payer un impôt supplémentaire cette année de 500 euros par personne. Ce n'est pas impossible que nos représentants décident quelque chose comme ça prochainement. Eh bien, je pourrais ne pas être d'accord. Je pourrais protester. Je pourrais descendre dans la rue et crier. Mais mes représentants ont décidé cela. Ils ont décidé pour nous, à nous de suivre, et c'est obligatoire. Donc Adam a décidé quelque chose pour nous ce jour-là. On peut poser une question, est-ce que nous sommes condamnés alors à cause du péché d'Adam? Est-ce que nous sommes condamnés à cause de son péché? Je dirais pas uniquement à cause de la fin de ce verset, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc nous mourrons pas à cause du péché d'Adam, nous mourrons à cause de notre propre péché. Nous sommes pleinement responsables devant Dieu pour notre péché. Alors j'ai une petite histoire à raconter. Il y avait un bûcheron, on va dire dans le nord du Canada, je viens du Canada. C'était avant l'époque où on avait des scies, des tronçonneuses. Pour couper un arbre, il fallait couper avec une hache. Ce bûcheron doit travailler très dur toute la journée pour couper des arbres. À chaque fois qu'il donne un coup dans l'arbre avec sa hache, il jure en disant: Oh Adam, sacré Adam! Un jour, son patron lui demande: Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu en as après Adam? Alors le bûcheron répond: Bah, si Adam n'avait pas péché, la terre n'aurait pas été maudite et moi je n'aurais pas eu à travailler si durement pour gagner ma croûte. Et puis encore, il donne un coup dans un arbre en jurant et en contre Adam. Et le patron lui dit: Mais tu penses que toi, si tu avais été dans le jardin, tu aurais fait différemment? Il répond: Bien sûr que oui. Moi, je n'aurais pas mis l'humanité dans le pétrin dans lequel nous sommes. Bon. Un jour, le patron doit s'absenter pour aller dans la ville. Il prend son ouvrier à part et lui dit: Écoute, aujourd'hui, au lieu de couper des arbres, je voudrais que tu sois au bureau et que tu répondes au téléphone. Et puisque c'est un jour spécial pour toi, tu peux profiter de tout ce qu'il y a dans le bureau. La machine à café, là j'ai des cigares sur le bureau si tu veux fumer mes cigares. Profite de tout. Simplement, je te demanderai de ne pas ouvrir le tiroir numéro 3 de mon bureau. Alors cet ouvrier est très content, c'est une bonne journée pour lui. Il met ses bottes sur le bureau du patron, il fume ses cigares, il profite de la journée. Mais il regarde continuellement le tiroir numéro 3 du bureau, il est très curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Et il finit par craquer, il ouvre le tiroir numéro 3 et il y a simplement un petit papier sur lequel c'est marqué Sacré Adam. Alors, je crois que le patron a bien illustré que nous sommes tous pécheurs. Deuxième partie. Une parenthèse. Il va parler du lien entre le péché et la loi et la mort. Parce qu'il vient d'affirmer que le péché est venu par Adam et la mort est venue par Adam. Quelqu'un pourrait poser la question, mais il n'y avait pas encore la loi. Alors, est-ce que c'était vraiment du péché? Alors, nous lisons versets 13 et 14. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Ici, la question est posée, le péché existait-il avant que la loi ne soit donnée? La loi est donnée avec Moïse, est-ce qu'il y avait vraiment du péché? Tous ont-ils péché à ce moment-là? La réponse de l'apôtre Paul, c'est oui, il y avait du péché, et la preuve en est que la mort était bien présente. La mort a même régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc Adam avait une loi en quelque sorte, il ne devait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a enfreint cette loi. Par la suite, il n'y a pas de loi révélée par Dieu jusqu'à Moïse. Mais il y a quand même le péché, parce que les hommes ont leur conscience. Dans Romains au chapitre 1 et 2, nous avons appris que Dieu s'est révélé dans la création. Il s'est révélé aussi dans la conscience. Et ceux qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas connu la loi de Dieu, seront jugés selon leur conscience. Tout cela a une implication, je pense, pour la mission. Est-ce que ceux qui sont loin et qui n'ont jamais entendu l'évangile de Christ, est-ce qu'ils sont eux aussi jugés, condamnés? Ben, la Bible dirait que oui, ils seront jugés selon leur conscience. Mais cela est une parenthèse dans la pensée majeure qui est une comparaison entre les deux Adam. Et nous allons remarquer des comparaisons et des contrastes entre les deux Adam, du verset 15 au verset 17. D'abord, on va se poser cette question. Pourquoi est-ce que Paul, dans un développement sur la justification par la foi, doit-il nous parler d'Adam? Le livre de la Genèse n'est jamais très loin dans la pensée paulinienne, notamment dans l'épître aux Romains. On le verra à nouveau dans le chapitre 8. Il va nous parler d'Adam parce que Adam est dit ici, à la fin du verset 14, l'image de celui qui devait venir. C'est-à-dire déjà en Adam, Dieu préparait la venue de Christ. Adam est le père de la race, Jésus est le père d'une nouvelle race. Quelqu'un a dit, ce n'est pas moi, mais je trouve que c'est très beau. Très joli comme citation. L'avenir de l'humanité a été déterminé par deux hommes dans deux jardins devant deux arbres. Adam, devant un arbre dans le jardin d'Éden, a désobéi à Dieu. Elle a décidé l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Cela a déterminé l'avenir de l'humanité. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, second Adam, dans le jardin de Gethsémané, quand il voyait venir la croix, il a prié en demandant d'être, si possible, délivré de cette épreuve. Mais il a fini sa prière en disant, mais pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Donc, Adam qui exerce sa propre volonté en indépendance vis-à-vis de Dieu, Jésus qui exerce sa volonté pour se soumettre à Dieu et qui met la volonté de Dieu en avant devant l'arbre de la croix et qui détermine l'avenir de l'humanité. Donc, si nous pouvons comprendre notre lien à Adam, nous pouvons comprendre le mécanisme de la justification par la foi, parce que nous comprendrons notre lien à Christ. Lisons le texte maintenant, et je vous demande, en lisant, d'essayer de repérer les comparaisons entre Adam et Jésus et les contrastes entre Adam et Jésus. Donc vous verrez au moins une comparaison, une similarité, et puis vous verrez plusieurs contrastes. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce de Dieu qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Avez-vous vu ces points de comparaison et de contraste? Adam a commis une faute. Jésus, nous fait une grâce. Adam a péché. Jésus-Christ a obéi et il nous donne un don gratuit. Le péché d'Adam a amené au jugement. Le don gratuit amène à la vie et à l'acquittement par rapport à la condamnation qu'a portée Adam. À cause d'Adam, la mort a régné. Et puis, il y a on s'attendrait à ce qu'ils disent que la vie a régné en Christ. C'est vrai, on peut dire la vie règne par Christ. Mais il dit les justifiés régneront. C'est une belle pensée de dire que nous régnerons avec Christ. Adam était destiné à régner sur la terre. On lui avait donné la domination sur les animaux, sur la création. Il devait régner en bon régent sous l'autorité de Dieu. Il a failli dans cette tâche. Donc Jésus est venu non seulement pour sauver, mais pour régner sur la nouvelle terre, la nouvelle création, sur les hommes, et nous régnerons avec lui. Quelle merveilleuse pensée! Donc la désobéissance d'Adam, l'obéissance du second Adam, de Christ. Le seul point de comparaison, la seule similarité, c'est ce rapport entre un seul et beaucoup. À cause du péché d'un seul, beaucoup sont condamnés. À cause de l'obéissance d'un seul, beaucoup sont justifiés. Donc, ce chapitre 5, en cours de théologie dans les instituts bibliques, souvent on l'étudie pour étudier la doctrine du péché originel. Je trouve que c'est un petit peu une erreur si on se concentre sur la notion de péché originel, bien que ce soit présent. L'apôtre Paul nous parle du péché d'Adam uniquement pour mettre en lumière l'obéissance de Christ. Un exemple, si je dis à mon épouse, tes yeux sont bleus comme le ciel de Provence, nous habitons en Provence. Ce qui est important dans cette phrase, ce n'est pas le ciel bleu de Provence, c'est les yeux de mon épouse. Le ciel bleu de Provence n'est là que pour mettre une lumière sur les yeux de mon épouse. Ici, Adam, il est présent simplement pour braquer le spot sur Jésus et notre solidarité avec lui. Nous en arrivons à la conclusion. Nous devons entièrement notre salut au second Adam. C'est ce qu'il va redire dans les versets 18 à 21. Lisons ainsi donc. Je vous ai dit au début ce soir que le mot donc était très important. En voilà un deuxième exemple. L'apôtre arrive à sa conclusion, à son application, à nous aussi de penser aux applications pour nous. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Magnifique texte encore. Une petite visuelle pour comprendre ce dont nous parlons ici. À notre naissance, nous sommes entrés dans la famille d'Adam et nous sommes devenus automatiquement solidaires de son péché, de la mort, du jugement. Nous étions comme prisonniers de cela. C'était notre origine et notre destin. Est venu le deuxième Adam, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a parlé, nous a convaincus de notre péché et nous a attirés à Christ et nous avons cru. À notre nouvelle naissance, Dieu nous a pris, l'Esprit nous a pris et nous a plongés dans une nouvelle solidarité, celle avec Christ. Je recule d'une phrase. À notre naissance, solidaire avec Adam. À notre nouvelle naissance, solidaire avec Christ, dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle réalité, dans un nouveau royaume, dans une nouvelle famille. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. Adam, le deuxième Adam, Jésus, est le père de cette nouvelle race. Ce qui fait que je suis au bénéfice de cette solidarité avec Christ. D'où l'importance de la petite phrase qu'affectionne beaucoup l'apôtre Paul, les deux petits mots en Christ. Vous verrez ces deux mots très souvent dans les écrits de Paul, notamment dans Éphésiens. Mais le principe est là. Quelques applications du fait que je suis solidaire avec Christ grâce à l'Esprit Saint qui m'a plongé en lui. C'est ce que symbolise notre baptême aussi, plongé en Christ. Puisque Jésus est le Fils de Dieu et que je suis en Christ, je suis maintenant Fils de Dieu parce que je suis en Christ. Puisque Jésus est juste et saint, et que je suis en Christ, solidaire avec son acte d'obéissance, je suis moi-même aujourd'hui juste et saint, pas par mes propres mérites, mais parce que l'Esprit Saint m'a uni à Christ. Et comme une branche greffée sur le cep, la vie de Christ coule en moi et en vous. Où est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus est assis à la droite de Dieu. Et où êtes-vous aujourd'hui? Puisque vous êtes en Christ, vous pouvez dire que vous êtes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6, l'apôtre Paul le dit. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Mais le déjà, c'est que nous sommes déjà assis avec Christ, déjà vainqueurs. Jésus est l'héritier du Père. Il est le Fils bien-aimé. Je suis en Christ. Je suis donc co-héritier avec Christ. Jésus-Christ régnera sur cette terre. Et puisque je suis en Christ et solidaire avec lui, je régnerai avec lui. La Bible se termine ainsi parmi les derniers mots de la Bible dans Apocalypse 22, et ils régneront avec lui en parlant des saints, des croyants. Jésus est aimé du Père. Et puisque je suis en Christ, solidaire avec lui, je suis aimé du Père. Frères et sœurs, ce soir, vous êtes aimés du Père. Quand le Père, lors du baptême de Jésus, a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il le dit au sujet de vous aussi. Vous êtes les fils, les filles bien-aimées de Dieu en qui il met toute son affection. Parce que vous êtes en Christ. Et Jésus vit éternellement, bien sûr. Il est Dieu, il est auprès du Père. Et puisque je suis en lui, je vivrai éternellement. Vous voyez, j'ai bien insisté sur ce point parce que avant, peut-être jeune converti, je me disais, bon, je suis converti, Dieu m'a fait quelques cadeaux. Il me donne la vie éternelle. Mais je ne voyais pas le lien entre le salut et la vie éternelle. En fait, le lien, c'est que Jésus vit, je suis en lui, donc je vivrai éternellement. Jésus est juste, je suis en lui, je suis juste et je ne serai jamais plus juste que ce que je le suis maintenant. Est-ce que ça vous apporte de la joie, tout cela? J'espère que oui, ce sont des pensées merveilleuses. Notre solidarité avec Christ, quelquefois on appelle ça notre identification avec Christ. Nous nous approchons de la fin de notre soirée. Vous pouvez préparer des questions si vous en avez. Cette deuxième partie du chapitre 5 est très importante où nous apprenons ce principe de solidarité avec Christ parce que c'est le tremplin pour les chapitres 6, 7 et 8. Nous ne pouvons pas comprendre les chapitres 6, 7 et 8 si nous n'avons pas compris cette deuxième partie du chapitre 5. Par exemple, dans le chapitre 6, puisque je suis en Christ et que Christ est libre du péché, moi aussi, je suis libre du péché. Chapitre 7, puisque je suis en Christ. Et Christ est libre par rapport à la loi. Moi aussi, je suis libre de la loi en Christ. Christ a obéi à toute la loi pour moi. Chapitre 8. Christ, libre de la chair, je suis en lui. Je suis moi-même aussi libre de la chair. C'est la fin de notre soirée. Nous avons parlé des effets de l'Évangile, Romains 5, 1 à 21. Vous aurez la prochaine fois une vie sainte au moyen de l'Évangile. Et vraiment, la vie sainte, on ne peut pas la vivre par nos propres forces. On peut simplement la vivre au fur et à mesure qu'on comprend la joie de notre salut, la puissance de notre salut, la puissance de notre connexion avec Christ. Nous sommes comme des cèpes sur le sermon. Voilà, j'arrête le partage de l'écran s'il y a des questions. Nous tenterons de
Alors,
répondre.
il y a des questions qui... Oui, une question qui est arrivée, en tout cas. C'est en relation avec l'expression second Adam. Et l'auditeur cite le verset 1 Corinthiens 15, 45, où il est parlé du premier Adam et du dernier Adam. au verset 47 du premier homme et du second homme. Pourquoi dernier Adam et pas second Adam dans la version Darby? Je sais pas, je crois que c'est la même chose dans une
Je
autre
pense que
version, mais.
c'est la même chose. Je vérifie quand même pour être certain. Vous pouvez redire le verset.
1 Corinthiens 15, 45 et 47.
Oui. Premier homme tiré de la terre et fait de poussière, le second homme, le Seigneur, et le ciel. Ça, c'est second Adam. Et au verset 45, le dernier Adam. Oui, je suis dans la traduction
Second
seconde
21.
21. Oui. Donc, je pense qu'il nous faut prendre les expressions comme équivalentes. Il y a un premier Adam, il y a une seconde, mais il n'y en a pas d'autre. Il est le dernier, la création qui émane de Jésus-Christ, la nouvelle création et la création finale.
D'où le choix du mot second en français, puisque autrement, si on avait dit deuxième, ça aurait impliqué qu'il y avait un troisième, hein,
Une
mais
suite.
on a bien choisi second Adam qui est similaire en fait, effectivement, comme tu dis, synonyme de dernier. Hein. Et
Merci pour cette question.
une autre question qui arrive maintenant. Bonsoir, je voulais savoir ce qui vous fait préférer le terme de solidaire à participant. Le mot participant est utilisé à plusieurs reprises dans la version second 21, Hébreux 3, 14, par exemple.
Oui, alors la question est bonne. Participant, comme j'ai mentionné, je crois, certains théologiens ont bien parlé de notre identification avec Christ et je reconnais que solidaire, c'est solidarité, c'est la mienne d'expression. J'ai voulu souligner ainsi la solidité de cette connexion avec Christ, le fait qu'on soit inséparable, mais le terme participant est biblique. Dans le chapitre 6, l'apôtre Paul l'exprimera encore d'une autre façon. Il dira, je crois que c'est au verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui. On participe à la vie de Christ, c'est magnifique.
Alors voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées pour le moment. C'est vrai que c'est un chapitre dense, hein. Il faut arriver à bien le comprendre, bien le méditer, bien l'absorber pour en ressortir tout le contenu de ce chapitre, comme tu l'as fait ce soir. Alors je pense que s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, on va arrêter là. En te remerciant beaucoup pour ces deux présentations que tu as faites sur les chapitres, fin du chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, pour nous aider à avancer dans cette compréhension de cet épître magistral. Et je passe la parole à Jacques pour terminer ce moment, cette soirée.
Merci beaucoup.
Voilà, merci encore, Brad, pour cette présentation. Nous allons terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore de nous avoir rappelé ou révélé toutes ces magnifiques intentions dans ta parole. Nous te remercions pour ce plan de salut et cette vie éternelle que tu nous as donnée dans ton amour. Nous te remercions encore pour ce que nous avons pu comprendre davantage encore ce soir. Et nous te prions que nous puissions continuer à méditer, à approfondir ta parole. Nous te remercions pour ce que tu nous l'as donné, que nous avons le privilège de pouvoir la lire librement et sans frein. Nous pensons à tous ceux qui n'ont pas ce privilège. Nous voulons te prier pour ceux qui ne l'ont pas ou qui sont persécutés. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu nous donnes. Nous nous remettons à toi pour la fin de cette soirée, pour cette semaine, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bonne fin de soirée à tous. Merci encore.
Bonne fin de soirée à tous.